On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Ce poisson très ancien serait-il ton ancêtre? Un texte de Clémence Tessier-Laliberté, paru le 30 juillet 2025 dans les As de l'Info. Il y a un an, une équipe de scientifiques dirigée par la chercheuse Melina Jobbins a fait une découverte passionnante près de la ville canadienne de Lundar, au Manitoba. En fouillant dans des roches vieilles de 390 millions d'années, ils ont trouvé un fossile d'un poisson que personne n'avait encore jamais vu. Ce poisson s'appelle maintenant Elmosteus lundarensis. As-tu remarqué que le nom de la ville où il a été découvert est maintenant dans son nom? Il vivait dans l'océan très longtemps avant les dinosaures. Et il pourrait bien nous aider à mieux comprendre nos propres dents. Alors, souris, on part à sa rencontre. Pourquoi ce poisson est-il si spécial? Ce poisson fait partie d'un groupe préhistorique appelé les placodermes. Ces derniers avaient une particularité très utile. Des plaques osseuses solides recouvraient leur tête et le haut de leur dos. Cela formait une sorte d'armure naturelle, comme un bouclier intégré à leur squelette. Ces plaques servaient probablement à les protéger contre d'autres poissons. Mais ce n'est pas tout. Les placodermes sont aussi les premiers poissons connus à posséder une vraie mâchoire faite d'os. Et c'est ce qui nous intéresse. Avant les placodermes, les poissons n'avaient pas de mâchoire inférieure solide. Ils mangeaient en aspirant leur nourriture. L'apparition d'une mâchoire a changé beaucoup de choses dans l'évolution des vertébrés, c'est-à-dire des animaux avec un squelette interne, comme nous. Les placodermes sont les premiers poissons à avoir réellement une mâchoire bien développée en os. Leurs dents étaient différentes aussi, explique François Terrien, paléontologue au Musée royal Tyrrell en Alberta. Les dents de ces poissons n'avaient pas encore d'émail, cette couche dure qui protège nos dents aujourd'hui, mais elles représentent une étape importante dans l'histoire de notre propre squelette. Qu'est-ce que ce fossile dit sur nous? C'est super pour nous parce que ça nous permet de comprendre comment la mâchoire et les dents ont commencé à évoluer chez eux pour finalement arriver jusqu'à nous, les humains, a expliqué la chercheuse Melina Jobbins à un journaliste du journal franco-manitobain La Liberté. Nous avons les mêmes structures osseuses et ils les ont eues avant nous. Ce sont donc nos très vieux ancêtres. Est-ce que ça voudrait dire que nous sommes des poissons? C'est ce que pense François Terrien. Du point de vue de l'évolution, on est des poissons. On est juste des poissons très bizarres, qui ont des jambes, des poumons, qui peuvent marcher sur la terre ferme. Une chose est certaine. En découvrant un ancien poisson comme Elmosteus lundarensis, on découvre aussi un petit bout de nous-mêmes. Toi, si tu étais poisson, lequel serais-tu? Superman fait débat. Un texte de Maxime Ouellette, paru le 26 juillet 2025 dans les As de l'Info. Depuis sa création en 1933, Superman a affronté plusieurs vilains tels que Doomsday, Bizarro et le milliardaire égocentrique Lex Luthor. Mais aujourd'hui, l'un des super-héros les plus populaires au monde est opposé à des adversaires bien réels, les supporters de Trump. Qui est Superman? Ce super-héros n'est pas humain. Il est arrivé au Kansas, un État américain, quand il était encore un bébé. D'où vient-il? De la planète Krypton. C'est donc un extraterrestre. Ses parents l'ont envoyé sur Terre pour qu'il échappe à l'explosion de sa planète, ce qui fait de lui un réfugié. Il est adopté par la famille Kent, qui lui donne le nom Clark, et l'élève comme un fils. Son costume est bleu, sa cape est rouge et son symbole est un S. Il peut voler à des vitesses surprenantes, envoyer des lasers avec ses yeux. Il est super fort et son souffle est glacial. Lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil, il devient invincible, d'où son surnom, l'homme d'acier. Dans la vie de tous les jours, Clark Kent est journaliste pour le Daily Planet, un journal de Métropolis, la ville que défend Superman. En plus de protéger les innocents des super-vilains avec ses super-pouvoirs, il défend la démocratie avec ses textes. Superman ou Superplate? Le réalisateur du nouveau film de Superman, James Gunn, a expliqué que l'histoire du super-héros était en fait celle d'un immigrant. Superman, c'est l'histoire de l'Amérique. C'est un immigrant venu d'ailleurs qui bâtit en partie notre pays. Pour moi, c'est surtout une histoire qui dit que la gentillesse humaine fondamentale est une valeur et que nous l'avons perdue, a ajouté James Gunn au magazine Times. Le réseau de télévision de droite Fox s'est emparé de la citation pour déclarer que le film était trop de gauche et qu'il faisait la promotion de l'immigration. « Nous n'allons pas au cinéma pour recevoir des leçons et pour que quelqu'un nous impose sa façon de voir les choses », a déclaré l'ancienne conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, à Fox News. C'est quoi la gauche et la droite en politique? La gauche veut plus d'égalité. Ses représentants pensent que tout le monde doit avoir les mêmes chances, peu importe s'il est riche, pauvre, différent, né ailleurs ou ici. Dans le nouveau film de Superman, par exemple, on voit le super-héros défendre les personnes mises de côté et il parle de justice pour tout le monde. Ce sont des idées que la gauche aime bien. La droite préfère les valeurs traditionnelles comme la famille, la religion, l'amour du pays. Ses représentants n'aiment pas quand les politiques changent trop vite et sont moins ouverts à l'immigration. Alors quand ils voient un Superman en faveur de l'égalité, certaines personnes de droite trouvent que c'est trop. Voilà pourquoi la droite critique le film. L'acteur Dean Cain, un fervent partisan de Donald Trump qui a déjà incarné Superman dans une série des années 1990, a affirmé que la nouvelle version du personnage était trop engagée politiquement. Il a soutenu qu'il y avait des limites et que même s'il respectait les immigrants, en faire la promotion dans un film de Superman, un héros depuis longtemps associé aux valeurs américaines, était une erreur potentiellement coûteuse. En d'autres mots, il croit que le public évitera d'aller voir le film au cinéma. Pourtant, le film fait beaucoup d'argent depuis sa sortie. Plus de 600 millions de dollars canadiens, pour être exact. Psst! Les créateurs du mythique homme d'acier, Jerry Siegel et Joe Shuster, sont tous les deux des immigrants, des Juifs, ayant fui l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus, Superman a toujours été ouvert d'esprit. Si on traduit cette image, Superman dit « Et rappelez-vous, votre école, comme notre pays, est formée d'Américains de plusieurs ethnies, religions et origines différentes. Alors, si tu entends quiconque parler contre un camarade de classe à cause de cela, n'attends pas. Dis-lui que ce genre de comportement n'est pas américain. Dis-toi que cette affiche était distribuée dans les écoles en 1949. Des clins d'œil à l'actualité. Dans les dernières semaines, Trump s'est lui-même comparé à Superman dans une image diffusée par la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux. Pourtant, ses politiques sont à l'opposé des valeurs du film Superman. Dans le film, deux nations fictives s'affrontent pour le contrôle de territoire. Pour certains, ce conflit ressemble à celui qui oppose la Russie à l'Ukraine ou encore Israël à la Palestine. Le réalisateur James Gunn a expliqué que c'était un hasard. Il s'est défendu en expliquant que le scénario était déjà complété avant le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, mais ça participe à la controverse. Le savais-tu? Superman est le personnage issu des comics avec le deuxième plus grand nombre de films. Il est à égalité avec Spider-Man, qui en a aussi 8, et juste derrière un certain Batman, qui lui compte 12 films. En plus de ces 8 longs-métrages, Superman apparaît dans de nombreuses séries télé. Et toi, as-tu déjà vu un film ou une série mettant en vedette l'homme d'acier? Les hauts et les bas d'Eugénie Bouchard. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 25 juillet 2025 dans Les As de l'Info. En 2014, le nom d'Eugénie Bouchard était sur toutes les lèvres. À seulement 20 ans, la Montréalaise est devenue la première joueuse de tennis canadienne à se classer parmi les 5 meilleurs joueurs au monde. On la considérait comme la future vedette du tennis. Malheureusement, elle n'a jamais été capable de répliquer son succès. Eugénie Bouchard vient d'annoncer qu'elle prendra sa retraite après sa participation à l'Omnium Banque nationale qui a commencé la fin de semaine dernière. Je te présente cette athlète surnommée simplement Génie. Des débuts prometteurs. Née le 25 février 1994, Eugénie Bouchard grandit à Montréal. Très jeune, elle se passionne pour le tennis. À 12 ans, elle quitte le Québec pour s'installer en Floride, aux États-Unis, afin de s'entraîner à l'académie de Nick Saviano, qui est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Ce choix ambitieux a permis à Eugénie Bouchard de progresser rapidement jusqu'à devenir championne junior au prestigieux tournoi de Wimbledon en 2012, à l'âge de 18 ans. L'année 2013 marque un tournant dans la carrière d'Eugénie. Elle atteint sa première finale sur le circuit professionnel à Osaka, au Japon. À la fin de l'année, Eugénie est nommée « Révélation de l'année », un prix remis par les journalistes et les fans à la meilleure recrue de la saison. Elle termine 2013 au 32e rang mondial après avoir commencé l'année en dehors du top 100. Une année historique. 2014 a commencé fort pour la nouvelle vedette du tennis canadien. Aux deux premiers tournois du Grand Chelem en Australie et en France, elle atteint la demi-finale. Quelques semaines plus tard, tous les amateurs de tennis la regardent à Wimbledon. Elle devient la première Canadienne à participer à une finale de ce tournoi britannique. Même si elle a perdu, cela reste un exploit qu'aucune Canadienne n'a répété depuis. La même année, elle remporte son premier trophée en Allemagne et continue de grimper dans le classement. Elle devient la première Canadienne à se classer parmi les 5 meilleurs joueurs de tennis au monde, hommes et femmes confondus. À tous ces matchs, il y a désormais une foule de partisans venus l'encourager. On l'appelle la Génie Army, ce qui veut dire l'armée de génie. Et après? Après l'ascension, vient forcément la descente, et dans le cas d'Eugénie Bouchard, la descente a été aussi rapide que l'ascension. En 2015, elle chute de la 5e place au 48e rang. En 2018, elle chute au 89e rang. En 2019, elle chute encore au 220e rang. En 2024, elle sort du top 1000. Pourquoi? Plusieurs raisons expliquent la chute d'Eugénie Bouchard dans le classement. Elle a dû faire face à plusieurs obstacles. La pression énorme du public et des médias, des changements d'entraîneur et surtout, une grosse blessure à la tête en 2015. Une commotion cérébrale qui a beaucoup affecté son moral et sa santé. À partir de là, elle a eu du mal à retrouver son niveau de jeu. Elle a enchaîné les défaites, les blessures, et a parfois été critiquée pour le mode de vie de vedette qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Malgré plusieurs tentatives de retour au jeu, elle n'a jamais retrouvé le succès de ses débuts. Depuis janvier 2024, Eugénie Bouchard joue au pickleball. Si tu ne connais pas ce sport, il ressemble énormément au tennis, mais sur de plus petits terrains. Elle est actuellement 12e au classement mondial de pickleball. Donc, même si Eugénie quitte le tennis, elle ne quitte pas le sport pour autant. Un dernier tour de piste à Montréal. Le 16 juillet 2025, elle annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle prendra sa retraite après l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Une belle manière de finir là où tout a commencé. Ce sera une semaine remplie d'émotions. Je vais essayer d'apprécier chaque moment, a-t-elle expliqué en entrevue avec RDS. L'Omnium Banque Nationale se déroule du 26 juillet au 7 août à Montréal. Et toi, as-tu déjà arrêté de faire quelque chose qui te passionnait avant? Sport, passe-temps, raconte-moi. Pourquoi voit-on plus de longicornes cet été? Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 24 juillet 2025 dans les As de l'Info. As-tu déjà croisé la route de cet insecte aux très longues antennes? Cet été, tes chances de tomber nez à nez avec un longicorne sont plus élevées. Pourquoi y en a-t-il plus cette année? Pour le découvrir, j'ai rencontré Marie-Ève André, qui travaille à l'Insectarium de Montréal. Tout d'abord, c'est quoi un longicorne? Les longicornes sont des insectes du grand groupe des coléoptères, comme les coccinelles ou les scarabées. Au Québec, on compte au moins 190 espèces de longicornes. Celle qu'on voit beaucoup en ce moment s'appelle le longicorne noir. Est-ce qu'ils sont utiles à la nature? Oui. Les femelles pondent leurs œufs sur des arbres affaiblis ou morts. Une fois nées, les larves creusent le bois pour se nourrir. En faisant cela, elles participent à la décomposition des arbres, ce qui aide à renouveler la forêt. De plus, les longicornes servent de nourriture à certains oiseaux, comme le pic-bois. On voit plus de longicornes cet été au Québec. Pourquoi? Le cycle de vie du longicorne noir dure 2 ans. En 2023, de grands feux de forêt ont touché le Québec. Ça a laissé beaucoup d'arbres brûlés qui ont fourni plus d'endroits aux femelles longicornes pour pondre leurs œufs. Résultat, 2 ans plus tard, en 2025, il y a plus d'adultes. Et ce n'est pas tout. Les fortes chaleurs de l'été rendent les insectes plus actifs. Alors, non seulement il y en a plus, mais on les voit davantage. Est-ce que c'est grave qu'il y en ait plus? Ce n'est pas un problème en soi. Mais comme ce sont de gros insectes, Ça peut surprendre certaines personnes. Le savais-tu? On les appelle longicornes à cause de leurs très longues antennes. Longicorne égale longue corne. Est-ce qu'il y a des espèces de longicornes qui viennent d'ailleurs et qui s'installent ici? Oui. Le longicorne asiatique, par exemple. Ce genre d'espèce peut poser problème, car elle n'a pas de prédateur naturel ici. Elle se multiplie donc plus rapidement, ce qui peut déséquilibrer les écosystèmes. Heureusement, en 2020, le longicorne asiatique a été déclaré éradiqué au Canada. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y en a plus. Ouf! Est-ce qu'on observe d'autres insectes plus nombreux cet été au Québec? Oui, les lucioles. Les larves vivent dans des endroits humides au sol. Comme l'été a été à la fois pluvieux et chaud, les conditions étaient idéales pour elles. En 2023, j'ai discuté avec André-Philippe Drapeau-Picard, qui travaille lui aussi à l'insectarium. Il m'a donné ses meilleurs trucs pour observer les lucioles. Et toi, as-tu pu observer un longicorne dans la nature? Comment trouves-tu cette bestiole? Belle ou effrayante? Une chouette visite à l'hôpital des oiseaux de proie. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 28 juillet 2025 dans les As de l'Info. Je dois te faire une confidence. J'adore les oiseaux. Surtout les chouettes et les hiboux. Alors quand j'ai su que j'allais visiter un centre qui soigne les oiseaux de proie, j'étais vraiment contente. Et je n'ai pas été déçue. Voici, en image, ma visite du refuge Chouette à voir. Des oiseaux de quoi? De proie. On appelle ainsi les oiseaux qui chassent et mangent d'autres animaux. Ils ont une excellente vue, un bec crochu et des griffes puissantes. L'aigle, le faucon et la chouette sont des oiseaux de proie. Au Québec, on en retrouve 27 espèces. Au Québec, les oiseaux de proie ont de la chance. Ils ont un organisme qui s'occupe d'eux, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, UQROP. Le centre d'observation, Chouette à voir, c'est une idée de l'UQROP. Situé à Saint-Jude, en Montérégie, il permet de mieux connaître ces oiseaux fascinants, mais aussi de comprendre comment ceux qui sont blessés sont soignés et remis sur pattes. On peut y voir la plus grande collection d'oiseaux de proie vivants au Québec. Chaque année, entre 400 et 450 oiseaux de proie blessés ou orphelins sont amenés au centre de réhabilitation. L'UQROP a la chance d'avoir près de 150 bénévoles dans la province qui transportent gratuitement les oiseaux blessés. Environ la moitié des oiseaux pourront être soignés et relâchés. Des vétérinaires leur apportent les premiers soins. Les petits patients sont ensuite soignés, nourris et pesés tous les jours. En moyenne, les oiseaux restent de 1 à 2 mois au centre avant d'être relâchés. Le jour de notre visite, le vétérinaire Guy Fitzgerald nous a fait la surprise de relâcher une très mignonne petite crécelle d'Amérique. Les oiseaux, qui sont malheureusement trop malades ou blessés, sont euthanasiés. Il y a aussi des oiseaux qui se sont trop attachés aux humains et ne peuvent pas être libérés. Cet attachement très fort porte un nom. On dit que l'oiseau a été imprégné aux humains. Les bébés oiseaux s'attachent pour la vie aux premiers êtres qu'ils voient, et parfois, ce sont des humains. Pendant la visite, on peut assister à une démonstration de vol d'oiseaux de proie. C'est très impressionnant de les voir de si près. Les oiseaux en vedette sont ceux qui habitent en permanence au centre de réhabilitation. Ils sont tous imprégnés aux humains. En voici quelques-uns. Le premier, c'est Caboche. C'est une chouette rayée qui est à chouette à voir depuis 23 ans. Il a été trouvé sur le bord d'une route, très mal en point. Une fois pris en charge, les vétérinaires se sont aperçus que ses yeux étaient trop petits. Caboche est presque aveugle et n'aurait pas pu chasser pour survivre. La seconde, Gaïa. C'est une petite buse. Vanessa, la naturaliste, connaît vraiment bien les oiseaux dont elle s'occupe. Le ciel était couvert, puis tout à coup, le soleil s'est pointé. Vanessa a tout de suite dit à Gaïa, « Tiens, le soleil, tu vas faire la crêpe ?» Quelques secondes plus tard, Gaïa ouvrait grand les ailes pour chauffer ses plumes au soleil. C'est une habitude qu'elle a. Sean est un urubu à tête rouge. C'est un très grand oiseau. Il a aussi un odorat très, très développé. Pendant la démonstration, il a réussi à trouver tous les morceaux de nourriture cachés sur le terrain. Lui aussi aime se faire chauffer les ailes au soleil. Le site de Chouette à voir est grand. Il y a différents sentiers dans la forêt qui mènent à des volières où on peut observer différentes espèces. Certains oiseaux jouent à cache-cache, comme ce hibou des marais. On peut également visiter le complexe de réhabilitation où les oiseaux sont en convalescence. Comme à l'hôpital, on nous demande d'être calme et silencieux pour ne pas déranger les petits patients. On ne peut pas prendre de photos non plus. Mon coup de cœur, une magnifique chouette rayée. Toute calme, elle me regardait avec ses grands yeux noirs pendant que je prenais 1000 photos d'elle. Si tu trouves un oiseau de proie blessé ou un bébé tombé du nid, demande à tes parents de prévenir un agent de protection de la faune. L'oiseau sera recueilli et soigné. Toi, quel nom donnerais-tu à la petite chouette rayée?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.